à l'écoute de VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Sédoudière, bonjour. Après la CEDEAO, dimanche dernier, l'Union africaine a décidé de suspendre immédiatement le Mali de toute participation à toutes les activités de l'Union africaine, de ses organes et institutions, jusqu'à ce que l'ordre constitutionnel normal soit rétabli, selon un communiqué hier soir du Conseil de paix et de sécurité de l'UA. L'UA appelle les militaires maliens à urgemment et inconditionnellement retourner dans leurs casernes et à s'abstenir de toute interférence future dans le processus politique au Mali. Elle appelle à établir les conditions pour le retour à une transition démocratique sans entrave, transparente et rapide, sans quoi le Conseil n'hésitera pas à imposer des sanctions ciblées et d'autres mesures punitives contre ceux qui empêchent la transition. En outre, aucun des responsables actuels ne devra se présenter aux élections à venir et l'UA demande la levée des restrictions sur tous les acteurs politiques, dont le président de la transition Bandao et son premier ministre Mokhtar Ouane, actuellement assignés à résidence. La République centrafricaine a condamné fermement l'attaque par son armée d'un poste frontalier en territoire tchadien qui a causé dimanche la mort de 6 soldats tchadiens, dont 5 enlevés et exécutés. C'était lors d'une rencontre hier soir à N'Djamena entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Chérif Mahamat Zen et Sylvie Baipo-Temon. Le Tchad et la Centrafrique ont souligné l'urgence d'élucider les circonstances dans lesquelles cette attaque a été opérée et ont convenu de la mise en place d'une commission d'enquête internationale indépendante et impartiale, selon un communiqué conjoint signé par les deux ministres. En République démocratique du Congo, l'activité a notablement repris depuis 2 jours à Goma, au nord Kivu. La ville évacuée le 27 mai par crainte d'une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo reste néanmoins une zone rouge selon les autorités. Nous y reviendrons avec Jacques Aristide en seconde partie de cette édition. RDC toujours, nouvelle incursion meurtrière des ADF dans l'est du pays. Abdourahman Dia nous donnera les détails. Par ailleurs, le parquet militaire de la RDC a bouclé son enquête contre l'ex-chef de la police, le général John Numbi, 11 ans après l'assassinat du défenseur des droits de l'homme, Floribert Chebeya, dans les locaux de la police, a dit à l'AFP, une source qui a requis l'anonymat. L'exercice américano-marocain African Lion 2021 aura-t-il lieu en partie dans le désert du Sahara occidental, en territoire disputé? C'est ce qu'avait affirmé ce week-end le premier ministre marocain avant d'être démenti hier par l'armée américaine. Ces exercices se dérouleront dans les frontières internationalement reconnues du royaume, a confirmé à l'AFP l'AFRICOM, le commandement militaire américain pour l'Afrique. Au moins 23 migrants africains se sont noyés dans un naufrage au large de la Tunisie alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée de la Libye vers l'Italie et 70 ont été secourus, a indiqué hier le Croissant Rouge tunisien. Plus de 120 migrants sont morts ces dernières semaines dans des incidents similaires au large des côtes tunisiennes. Le ministre ougandais des Transports, le général Edward Katumba Wamala, ancien chef de l'armée, a été blessé par balle hier au nord de Kampala lors d'une attaque qualifiée de ciblée par la police. Sa fille et son garde du corps ont été tués. John Biden est devenu hier le premier président américain en exercice à s'être rendu sur le site du massacre de centaines d'Africains américains par une foule blanche à Tulsa, dans l'Oklahoma, il y a 100 ans, l'un des pires chapitres de l'histoire de la violence raciale aux États-Unis. Mohamed Oumfar nous fera un compte-rendu et Nani Talani y reviendra en seconde partie. Le numéro 1 mondial de la viande, JBS, cible d'une cyberattaque avec demande de rançon, prévoit que la plupart des abattoirs et usines affectées en Australie et en Amérique du Nord reviennent à la normale ce mercredi. Cette cyberattaque serait, dit-on, le fait d'une organisation.
Suite de nos informations, ici aux États-Unis, le président Joe Biden s'est rendu mardi sur les lieux d'un massacre d'Africains américains à Tulsa, dans l'Oklahoma. Un acte symbolique qui vise, selon lui, à aider à rompre le silence qui a longtemps pesé sur l'un des pires épisodes de violence raciste de l'histoire des États-Unis. Le point avec Mohamed Oumfa.
Les événements dont nous parlons se sont déroulés il y a 100 ans et cependant je suis le premier président en 100 ans à venir à Tulsa, a fait savoir le démocrate en disant vouloir faire éclater la vérité. Joe Biden est en effet le premier président à venir commémorer la destruction par les hommes blancs il y a un siècle du quartier de Greenwood surnommé Black Wall Street pour sa prospérité économique. Cette mise à feu et à sang s'était opérée avec la complicité de la police locale après des tensions provoquées par l'arrestation d'un jeune cireur de chaussures noires accusé de l'agression d'une femme blanche. L'attaque avait fait jusqu'à 300 morts, laissé 10 000 personnes sans abri. Le massacre raciste de Tulsa a trop longtemps été oublié dans notre histoire. Aussitôt qu'il s'est produit, il y a eu un effort manifeste pour l'effacer de notre mémoire, a dénoncé le président américain en soulignant la présence dans le public devant lui de 3 survivants de ce massacre. Joe Biden a profité de son discours historique pour dénoncer les attaques absolument sans précédent, selon lui, contre le droit de vote des Afro-Américains. Il a promis de se battre pour qu'une loi électorale censée protéger leur accès aux urnes soit adoptée en juin par le Congrès, ainsi qu'un autre texte nommé en hommage à John Lewis, figure de la lutte pour les droits civiques décédé en 2020.
La série d'attaques continue dans l'est de la République démocratique du Congo. 5 personnes ont été tuées et plusieurs autres portées disparues dans le Nord Kivu, dans une nouvelle incursion de membres présumés des forces démocratiques alliées, les ADF. C'est juste après une autre attaque meurtrière dans l'Ituri voisine. Le point avec Abdourahmane Dia.
Selon l'administrateur du territoire de Beni, dans le Nord Kivu, 5 personnes ont été tuées lors de l'incursion des ADF mardi avant midi et plusieurs autres sont portées disparues, y compris des enfants dans la localité de Maïmoya. Donat Kibwana dit que la population est en débandade. La localité de Maïmoya est souvent la cible d'attaques des ADF depuis 2014, une zone où ces rebelles sont réputés très actifs. Dans la région voisine de l'Ituri, une 50aine de personnes, dont des enfants et des vieillards, ont été tuées lundi dans l'attaque de 2 localités. Et pourtant, depuis le 6 mai, le président Félix Tshisekedi a placé le Nord Kivu et l'Ituri en état de siège. Il a nommé des officiers militaires et de la police gouverneurs, vice-gouverneurs et maires des villes en remplacement des autorités civiles pour tenter de faire baisser les attaques récurrentes dans ces 2 provinces.
Personne n'est mort du Covid-19 en 24 heures au Royaume-Uni, une première depuis le 30 juillet, tandis qu'Israël a encore allégé son dispositif sanitaire et que le trafic aérien reprend aux États-Unis ou en Russie. La situation est tout autre en Asie du Sud-Est où la pandémie s'aggrave. Le point avec Nathalie Barge.
Pour espérer vaincre le coronavirus, une action mondiale est nécessaire en vue d'assurer une distribution plus équitable des vaccins, ont averti hier les chefs de l'OMS, de l'OMC, du FMI et de la Banque mondiale. L'OMS a dans le même temps accordé son homologation d'urgence au vaccin chinois Sinovac, qui peut ainsi intégrer le dispositif COVAX de mise à disposition de sérums, notamment dans les pays défavorisés. Parallèlement à la publication dans le Washington Post de cet appel aux dirigeants de la planète à un nouvel engagement, on apprenait que l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Japon avaient maintenu leurs réserves devant l'OMC quant à une éventuelle levée des brevets concernant les vaccins. Un point de vue que ne partage pas le groupe BRICS, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui a répété que la suspension de ces titres de propriété aiderait les nations les plus pauvres à lutter contre la COVID-19.
La Minute Éco, Jean-Roger Dion.
La quasi-totalité de la population dans la région du Tigré en Éthiopie a besoin d'aide alimentaire, a indiqué mardi le Programme alimentaire mondial, qui a lancé un appel pour obtenir 203 millions de dollars pour accroître son aide. Le PAM a distribué une aide alimentaire d'urgence à plus d'un million de personnes depuis le début des distributions en mars dans les régions du nord-ouest et du sud de la région du Tigré, où un total de 5,2 millions de personnes, soit 91% de la population du Tigré, ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence en raison du conflit, a déclaré un porte-parole lors d'un point de presse à Genève. Quatre organisations internationales majeures ont estimé mardi que les leaders mondiaux doivent prendre un nouvel engagement à œuvrer à une distribution plus équitable des vaccins contre le COVID-19 pour espérer vaincre l'épidémie. Les patrons du FMI, de l'OMS, de la Banque mondiale et de l'OMC appellent le G7 à s'entendre sur une stratégie mieux coordonnée, appuyée sur de nouveaux financements et à accepter de verser 50 milliards de dollars pour un plan anti-pandémie déjà proposé par le FMI. Les membres de l'OPEP et leurs alliés ont décidé de maintenir le rythme d'augmentation de leur production de pétrole d'ici juillet, sans donner d'indication pour les mois suivants, ni discuter du retour du pétrole iranien sur le marché. L'organisation a confirmé la décision prise lors du sommet précédent concernant les ajustements de la production pour le mois de juillet, compte tenu des fondamentaux du marché observés, a annoncé le cartel dans un communiqué publié à l'issue d'un sommet ministériel mardi.
Merci Jean-Roger. Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Athlétisme pour commencer. Le Burkinabé Hugues Fabrice Zango, médaillé de bronze au mondial en 2019, a réussi la meilleure performance de l'année sur le triple saut avec un essai à 17,67 m hier lors du meeting de Montreuil en France. Il égale ainsi le record de la réunion appartenant à son entraîneur Teddy Tamgo, en plus de réussir la meilleure performance de la saison à son deuxième essai. À bientôt 28 ans, Zango fait figure de favori pour le titre olympique depuis la grave blessure du champion en titre américain, Christian Taylor. Le record du monde est toujours détenu depuis le 7 août 1995 par le Britannique Jonathan Edwards avec 18,29 m. Parlant justement des JO de Tokyo, les joueuses de l'équipe australienne de softball sont arrivées hier au Japon, devenant la première équipe olympique à fouler le sol de l'archipel. Pour les Jeux de Tokyo qui suscitent encore polémiques et doutes en pleine pandémie, ayant déjà été vaccinées et testées avant leur départ, les sportives australiennes ont subi un test de dépistage du COVID-19 à leur arrivée. La venue de sportifs au Japon nous aidera à réaliser que les Jeux approchent, a déclaré le porte-parole du gouvernement nippon Katsunobu Kato. À cette semaine des JO, gouvernement japonais et responsable de l'organisation des Jeux assure que ceux-ci auront lieu et se tiendront de manière sûre et sécurisée. La population est cependant opposée à l'organisation des Jeux cet été, souhaitant, selon divers sondages, leur annulation ou un nouveau report. Les Jeux sont prévus du 23 juillet au 8 août prochain. Football, 6 ans après, Carlo Ancelotti retrouve le Real Madrid. Le club merengue a annoncé la signature du coach italien, vainqueur avec la Maison Blanche de la Ligue des Champions 2014 et censé rebâtir l'équipe après le départ de Zinedine Zidane, avec la signature d'Ancelotti pour 3 ans, qui sera officielle ce mercredi selon le club. La Maison Blanche aura mis moins d'une semaine à tourner la page Zizou. Le Français a décidé jeudi dernier de quitter son club de cœur, regrettant le manque de confiance de ses dirigeants au fil d'une saison moins aboutie que son premier mandat, qui a duré de 2016 à 2018. Débauché d'Everton, Ancelotti s'apprête à retrouver le président madrilène Florentino Pérez, qui l'avait évincé sans ménagement en 2015, un an seulement après la conquête de la décima de la 10e Ligue des Champions de la riche histoire merengue. L'Italien avait déjà entraîné le Real Madrid 2 saisons, de 2013 à 2015. Ancelotti connaît déjà sa première recrue, le défenseur international autrichien David Alaba, qui l'a côtoyé 1 an au Bayern Munich.
Merci Yacouba. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Nigeria, les observateurs politiques se disent préoccupés par les nombreuses attaques contre des installations de la Commission électorale nationale indépendante, dont les responsables disent avoir enregistré au moins 42 attaques depuis les dernières élections en 2019. Reportage de Timothy Obiezu à Abuja et récit de Rosine Munezero.
9 attaques ont eu lieu en 2019 et 21 autres l'année dernière. Mais au cours des 4 dernières semaines, 12 bureaux de la commission électorale ont été incendiés ou vandalisés. Le dernier incident s'est produit dimanche dans l'état d'Imo, dans le sud-est du pays. Les urnes, les isoloirs, les groupes électrogènes et les véhicules ont été détruits. Les responsables électoraux évaluent l'ampleur des dégâts, mais disent que cela pourrait affecter considérablement leur capacité à organiser des élections crédibles dans les endroits touchés. Djibrin Ibrahim du Centre pour la démocratie et le développement estime que ces attaques associées aux défis sécuritaires du Nigeria et les appels séparatistes vont affecter ces élections.
When some people are saying we want out,
quand certaines personnes disent nous voulons sortir de la fédération, d'autres disent allons voter pour rester dans la fédération, ça devient difficile de garantir un terrain d'entente pour les élections.
Les responsables accusent les groupes armés non identifiés et le groupe séparatiste du peuple du Biafra. L'IPOB dit lutter pour l'indépendance du Biafra qui a déjà connu une guerre meurtrière il y a plus de 50 ans. Aussi ces derniers mois, le Nigeria a connu une escalade de la violence des groupes criminels armés, ainsi que la montée de l'IPOB dans notre mouvement séparatiste dans le sud-ouest. L'analyste politique Rotimi Olawale estime que l'insécurité ne peut que retarder les élections, mais ne va pas les empêcher.
Je suis sûr que les élections générales de 2023 se tiendront comme prévu. En 2019, les élections ont été reportées de quelques semaines pour permettre une meilleure gestion des questions de sécurité dans le nord-est du pays. Dans le pire des cas, je pense que les élections de 2023 pourraient également être décalées de quelques semaines.
La semaine dernière, le chef de la commission électorale, Mahmoud Yakubu, a déclaré que les attaques contre les sites électoraux étaient une urgence nationale et a rencontré les responsables de la sécurité. Lors d'une réunion jeudi, les unités nigérianes se sont engagées à soutenir la commission en renforçant la sécurité autour des bureaux. Selon l'expert Ezenwa Nwangu, ces attaques sont politiquement motivées et vont probablement s'intensifier avant les prochains scrutins.
L'élite politique nigériane n'est pas innovante. Elle n'a trouvé aucun autre moyen de négociation autre que la violence. Vous allez voir, vers l'année prochaine, il y aura une escalade de cette violence.
La commission électorale se prépare à une élection majeure en novembre pour les gouverneurs des États de la Fédération nigériane. Le mois prochain, elle va entamer l'inscription des électeurs pour les scrutins de 2023. Les experts affirment que la situation sécuritaire va déterminer à la fois le taux de participation et la crédibilité du processus électoral.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
En République démocratique du Congo, les agences humanitaires affirment que 350 000 personnes touchées par l'éruption du mont Nyiragongo, près de la ville de Goma, ont besoin d'une aide urgente. De Genève, le point avec Lisa Schlein de la VOA. Le récit est signé Jacques Aristide.
Le mont Nyiragongo est entré en éruption le 22 mai dernier, transformant le ciel en un rouge ardent et crachant de la lave vers les villages voisins. Plus de 30 personnes ont été tuées. Les craintes d'une deuxième éruption volcanique ont provoqué un exode massif de la plupart des 450 000 habitants de Goma le 27 mai. Environ un quart de cette population a fui vers la ville voisine de Sake, dans la province du Nord Kivu. Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a dépêché une équipe de 9 experts dans la région pour évaluer les besoins des personnes déplacées. L'agence et ses partenaires ont immédiatement commencé à distribuer des bâches en plastique, de l'eau et d'autres aides. La chef du bureau du HCR à Goma, Jackie Keegan, dit que son équipe et elle sont depuis retournées à Goma. S'exprimant via un lien vidéo, elle décrit une situation faite d'incertitude d'incertitude et d'effroi qui prévaut dans la ville.
Oui, j'ai peur des répliques, bien sûr. Je suis moins effrayée maintenant que je l'étais lorsque les fenêtres tremblaient à chaque minute. Quelque chose qui se passait il y a encore environ 4 jours. Mais oui, c'est effrayant. Nous vivons dans les environs d'un volcan actif, comme tous les autres qui ont fui le volcan. Nous essayons de voir comment nous pouvons être aussi utiles que possible dans une période aussi difficile.
L'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, rapporte que l'éruption a déplacé plus de 415 000 personnes, dont près de la moitié sont des mineurs. La plupart se sont rendus dans des villes de l'est de la RD Congo, tandis qu'environ 52 000 personnes ont traversé la frontière pour gagner le Rwanda. Pour Paul Dillon, le porte-parole de l'OIM, environ un quart de ceux qui ont fui Goma sont très vulnérables et ont besoin d'une aide spéciale. Parmi ces habitants, des femmes qui allaitent, des malades chroniques, des femmes enceintes, des enfants non accompagnés, des personnes âgées et handicapées.
Si le déplacement devait durer, il est essentiel que nous réfléchissions à la manière dont nous allons prévenir la propagation des épidémies, faciliter l'aide humanitaire et ramener les enfants à l'école. L'OIM est particulièrement préoccupé par les risques pour la santé liés à l'éruption elle-même, le déplacement vers les zones avec des épidémies préexistantes, le manque d'accès à l'eau potable et la charge accrue imposée aux établissements de santé.
Les agences d'aide humanitaire préviennent que les habitants de Goma sont exposés à un risque accru de choléra qui est endémique dans la région et se propage facilement dans les régions où l'hygiène et l'assainissement laissent à désirer et l'eau propre insuffisante. Le Programme alimentaire mondial rapporte qu'il a commencé à fournir des rations alimentaires d'urgence à des milliers de personnes déplacées de Goma. Sur la base des évaluations réalisées au cours de la semaine dernière, Le PAM affirme qu'il vise à atteindre 165 000 personnes dans 3 villes qui accueillent des déplacés. Il indique qu'une aide alimentaire d'urgence supplémentaire est également fournie aux Congolais qui se sont rendus au Rwanda.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Gabon, l'éducation environnementale s'invite à l'école à l'initiative d'une vaste campagne de sensibilisation sur la protection de la nature et de ses écosystèmes. Une ONG locale sillonne les établissements scolaires de Libreville pour inciter le monde de l'éducation à s'approprier le concept de développement durable à travers la promotion des mangroves, entre autres. Reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
C'est un jour de classe inhabituel pour ces élèves de l'école Gros Bouquet 1 de Libreville. La leçon du jour porte sur la protection des mangroves. Marielle Zoura, 9 ans, est élève en cours moyen, deuxième année.
Je suis contente d'être venue à ce cours parce que ça m'a appris plein de choses sur la mangrove. Il ne faut pas polluer si on veut toujours avoir de l'oxygène parce que la mangrove, c'est comme un troisième poumon pour nous. C'est ce qui nous permet d'avoir beaucoup d'oxygène.
Guy Badinga est un autre élève qui vient de découvrir que l'écosystème des mangroves représente un site de reproduction de nombreuses espèces halieutiques.
Je sais que les mangroves jouent un rôle très important sur notre environnement, sur l'écosystème et sauvent des centaines de petits poissons, de reptiles.
Plumeria est à l'initiative de ce projet de sensibilisation des élèves à l'éducation environnementale. L'ONG spécialisée dans la protection des écosystèmes marins amène l'école à jouer un rôle essentiel dans la formation des citoyens respectueux de la nature. Loïc Etougué de l'ONG Plumeria.
Nous, ça nous a permis d'aller plus facilement et c'était vraiment bien. Les enfants, ils étaient très éveillés et tous, au moins, ils connaissaient déjà plus ou moins ce que c'est cet environnement sensible qu'est la mangrove.
Depuis quelques mois, l'école de Gros Bouquet 1 s'est mise au vert. Potager, ferme avicole et une petite unité de recyclage des déchets font désormais partie du jardin de cet établissement que dirige Julien Carrier.
Nous avons cette base solide dans l'école, ce qui va permettre de se poursuivre. Et depuis cette année, nous avons énormément d'intervenants dans l'école qui permettent de sensibiliser les élèves sur énormément de points différents. Donc là, nous ne sommes qu'au début de cette démarche puisque chaque année, nous rajoutons une pierre à l'édifice.
L'un des plaidoyers des ONG comme Pulmeraire est d'obtenir du gouvernement l'enseignement des questions environnementales dans les programmes scolaires. Libreville, Ismaël Obionzé pour VO Afrique.
À votre avis, votre émission interactive à 18h05, temps universel sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg avec vous. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo sera de retour à Abidjan le 17 juin d'après son parti, le Front Populaire Ivoirien. Après 10 ans de détention, il a définitivement été acquitté par la CPI. Que pensez-vous du retour de Laurent Gbagbo dans son pays? Venez en discuter en direct ce soir dans À votre avis à 18h, temps universel sur l'antenne de VOA Afrique en appelant le 001 202 205 26 33. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique. À ce soir, 18h05, temps universel.
Le président américain Joe Biden a participé hier aux cérémonies du centenaire d'un des pires épisodes de violence raciste de l'histoire des États-Unis qui a eu lieu dans l'Oklahoma. Les survivants du massacre de Tulsa et leurs descendants demandent toujours justice et réparation. Que représente la visite de M. Biden, premier président à se rendre à ces commémorations, lui qui a fait de la justice raciale son cheval de bataille? Pourra-t-elle satisfaire cette visite la soif de justice des Africains-Américains? Nanit Talani s'est entretenue avec le docteur Marilyn Sefocle, présidente du Forum des femmes ambassadrices à Washington, ici aux États-Unis.
D'abord, il faut situer un petit peu le contexte de Tulsa en Oklahoma à l'époque. Vous aviez une partie de la ville qui était très prospère. On avait découvert d'ailleurs du pétrole et donc cette partie était habitée en vaste majorité par des blancs américains. Ensuite, vous avez le quartier de Greenwood qui était habité en majorité par des Noirs américains. Ces Noirs américains donc avaient à peu près 35 blocs dans le quartier de Greenwood. Petit à petit, ils ont fait leur nid dans cette communauté et cette communauté est devenue extrêmement prospère. Il y avait même des Noirs qui avaient à l'époque, on parle de 1921, une compagnie d'avions par exemple. Il y avait des banques qui appartenaient à des Noirs. Puis ils avaient de belles voitures, de belles demeures. C'était un quartier très prospère. Ça irritait, si vous voulez, les Blancs qui, bien qu'étant prospères, ils voyaient que les Noirs montaient et allaient les égaler. Et donc, il a fallu de tout petits incidents, mais un incident vraiment minime que l'on ne remarque même pas. C'est-à-dire qu'un jeune homme noir, en quittant un ascenseur, il a piétiné son pied en partant très vite parce qu'il ne voulait pas être en retard pour un rendez-vous. Cette jeune femme s'est mise à hurler et tout de suite, il y a eu une rumeur qui s'est propagée dans toute la ville en disant qu'il l'a violée. Les Blancs se sont tout de suite mis en branle et ils ont envahi le quartier de Greenwood et tout de suite, ils ont lancé des grenades dans les maisons des gens. Ils ont brûlé les maisons de ces Noirs américains. Ils ont tout saccagé et beaucoup de Noirs américains sont morts par centaines.
C'est depuis 1921 que ces violences ont eu lieu, mais Joe Biden est le premier président américain à se rendre à ces commémorations. Qu'est-ce que sa visite peut signifier pour les Noirs américains?
C'est une visite qui est très tardive. C'est une visite qui aurait dû avoir lieu, mais il y a des décennies de cela. Mais toutefois, c'est un début qui doit être apprécié, qui doit être salué, parce qu'aucun président avant lui ne l'avait fait. Pas même Barack Obama ne l'avait fait, donc c'est extrêmement important. C'est le début, justement, de cette demande de pardon, de cette demande de réparation également.
Joe Biden, qui a fait de la justice raciale, de la justice sociale, son cheval de bataille, pourra-t-il satisfaire la soif de justice de toutes les minorités ethniques ici aux États-Unis?
Quand on parle des minorités ethniques aux États-Unis, il faut quand même y mettre un petit bémol. Évidemment, vous avez d'autres minorités ethniques qui ont été victimes de massacres. Mais on doit mettre surtout en exergue les Noirs américains, donc les Africains américains, et les Native Americans, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Amérindiens. Il s'agit de faits très spécifiques, de familles bien spécifiques. On a les noms de ces familles, on connaît ces personnes. Il ne s'agit pas de, comme on dirait en anglais, a free for all. Personne de couleur qui s'amène doit obtenir des réparations. Il s'agit de personnes qui habitaient à Tulsa, en Oklahoma, à cette époque. Et je pense que si on met l'accent là-dessus, les réparations devraient être plus justes.
Le docteur Marilyn Sefocle, présidente du Forum des femmes ambassadrices à Washington, ici aux États-Unis. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée, allez.